la bienvenue aux participants de nos retraites par une parole qui formule le souhait profond de mon cœur pour les journées que nous allons passer ensemble. Et le texte d'accueil, je l'ai écrit sur ce tableau et se trouve dans le psaume 119, qui est le plus court psaume de la Bible. Non. J'espère que vous saurez me reprendre si j'ai dit des erreurs. C'est le plus long psaume, mais il n'y a pas un verset de trop. Et le texte qui était sur mon cœur, c'est le verset 130. La révélation de ses paroles éclaire, ou selon une autre version, l'ouverture ou l'entrée de ses paroles éclaire, et elle donne de l'intelligence au saint. Cette parole était vraiment sur mon cœur. Et je veux croire que l'étude que nous allons faire ensemble va nous donner la lumière d'en haut pour comprendre l'état du monde dans lequel nous nous trouvons, les événements qui se précipitent de plus en plus, et ce que nous pouvons attendre dans les jours qui viennent. C'est une véritable révélation dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'entrer dans les pensées de Dieu afin de ne pas être ballotté ça et là, comme le dit l'apôtre Paul, par tout vent de doctrine. C'est ma confiance que non seulement nous allons être éclairés en lisant la parole, en lisant la Bible, mais que nous allons les uns et les autres entrer dans le cœur de cette parole. Et le cœur de cette parole, c'est une personne, c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est une personne. Et tout à l'heure, en parlant à l'un de mes amis, nous faisions cette constatation que vraiment la parole n'est pas quelque chose de symbolique, mais c'est une personne. Et nous voulons entrer dans le cœur du Seigneur Jésus. Cette parole donne de l'intelligence au simple. Et vous vous souvenez de ce que Jésus disait devant les foules à ses disciples qui revenaient avec joie d'une première mission. Jésus était tellement heureux de voir qu'ils avaient saisi quelque chose de ce qu'il leur avait communiqué, qu'il disait: je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits enfants. Alors, si vous voulez comprendre quelque chose au cours de ces journées, il vous faut, et moi avec vous, qu'ensemble nous ayons un cœur d'enfant. N'est-ce pas? C'est ça être simple, c'est pas être stupide, mais être simple. Et puis avoir de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est? J'aime beaucoup, moi, les définitions de la parole. Et dans Job, au chapitre 28, nous lisons une définition de l'intelligence. Il est dit « se retirer du mal ». C'est cela, l'intelligence. Et la sagesse, ou le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et puis l'intelligence, c'est se retirer du mal. Et c'est ce que les gens ne font pas. Ils courent au mal. Ils ne se retirent pas du mal. Et c'est pourquoi il a dit, nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. On tourne le dos à Dieu. On cherche l'intelligence dans les hautes études. Et qu'est-ce que cela donne? La guerre électronique. Vous voyez ce que les hommes arrivent à faire avec leur intelligence. Eh bien, le vœu de mon cœur, c'est que réellement, ce ne soit pas seulement un texte écrit sur le tableau ou dans vos bibles, mais que ce que nous allons étudier devienne pour nous une véritable révélation, que nous soyons éclairés, que nous ne soyons plus dans l'obscurité, car le thème de notre retraite, vous l'avez lu, c'est la parole prophétique, une lampe qui brille où? Dans un lieu obscur. Et quel est ce lieu obscur? C'est le cœur aussi, mais c'est aussi le monde sans lumière. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas la lumière? Un jour, la lumière est venue. Et qui était la lumière? C'était Jésus-Christ lui-même. Mais le monde a préféré les ténèbres à la lumière. Et maintenant, le monde est vraiment dans l'obscurité. Alors, ceux qui ont lu l'invitation, je pense que vous l'avez reçue, ou en tout cas, on vous en a parlé, vous avez pu vous rendre compte que nous disions dans cette invitation qu'il fallait venir ici avec quoi ? Il est nécessaire de venir au manoir avec une Bible. C'est possible qu'on ait pu oublier, en mettant nos affaires en ordre, une Bible. Je n'accuse personne, n'est-ce pas? Mais vous savez que si on vient ici au manoir, vous avez avec vous une Bible. Pourquoi? Parce que la Bible sera notre constante référence pour traiter le thème qui vous a été annoncé. La parole prophétique, une lampe dans un lieu obscur. Nous voudrions, dès ce soir, penser, vous soyez à même de contrôler vous-même l'enseignement que nous allons vous donner. Afin que vous ne repartiez pas d'ici avec les pensées d'un homme ou d'une certaine école théologique, mais avec ce que nous croyons être la vérité. Et qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est la pensée de Dieu à l'égard de toute chose. Et cette pensée de Dieu, elle a été manifestée dans une personne, Jésus, le Fils unique, auquel le Père a rendu ce témoignage, c'est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. J'ai mis en lui tout mon plaisir. Et si nous écoutons le Fils bien-aimé, nous aurons la pensée de Dieu à l'égard de toute chose. C'est quelque chose qui doit être réglé dans votre vie. Je veux connaître, non pas la pensée de telle église, ou la pensée de tel théologien, ou la pensée de tel homme, ou la pensée de M. Racine, c'est pas du tout cela. n'ai aucune envie de vous communiquer mes pensées. Mes propres pensées, c'est bon pour la poubelle. Mais le ministère que j'ai reçu du Seigneur, c'est de vous enseigner la parole de Dieu, et non pas les idées des hommes. Est-ce que Jésus, quand il est venu, est-ce qu'il y avait une Bible comme cela? Il y avait l'Ancien Testament. Comment appelait-on l'Ancien Testament? La Torah, les Écritures. Et chaque fois que dans le Nouveau Testament, vous lisez le mot les Écritures, de quoi est-il question? De l'Ancien Testament. Est-ce que Jésus a cru à l'Ancien Testament? Il a rendu témoignage à toutes les Écritures. Dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Il a revêtu de son autorité tout l'Ancien Testament. Alors, si Jésus y croyait, est-ce que nous pouvons y croire? Est-ce que vous avez besoin d'une autre preuve? Pourquoi est-ce que je crois à l'inspiration de l'Ancien Testament dans toutes ses parties, la loi, les Pentateuques, les psaumes, tous les livres poétiques, et les prophètes, c'est les livres historiques qu'on appelait les prophètes antérieurs, et les livres prophétiques qu'on appelait les prophètes postérieurs, n'est-ce pas? Les livres historiques, Josué, Juge, Ruth, tout ça, ce sont les prophètes qu'on appelle antérieurs, les livres historiques. Et dans la Bible juive, c'est le même sens. Et puis, les prophètes Ésaïe, Jérémie, et jusqu'aux 12 petits prophètes, c'est les prophètes postérieurs. Donc, au temps de Jésus, toute l'Écriture, donc tout l'Ancien Testament, a été confirmée par lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il n'était pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et il a dit que pas un trait de lettre, pas un iota, pas un trait de lettre ne serait pas accompli. Tout serait accompli. De sorte que, quand nous lisons l'Ancien Testament, on peut s'arrêter aussi sur chaque parole et sur chaque mot et croire que ces mots sont inspirés de Dieu. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure, le témoignage de l'apôtre Pierre au sujet de ce qu'est la parole prophétique. La parole prophétique, c'est une parole qui vient du cœur de Dieu, non pas de l'imagination des hommes dont Dieu s'est servi pour écrire. Ils ont été inspirés par Dieu, ils ont été poussés par Dieu pour écrire ce que nous possédons maintenant. Je parle pour l'instant que de l'Ancien Testament. Et Jésus a rendu ce témoignage que le ciel et la terre passeraient, mais que cette parole ne passerait pas. Donc, aujourd'hui encore, nous pouvons la croire. C'est pourquoi nous vous avons demandé de prendre une Bible. Le bonheur que j'ai eu dans les années du temps de Paul VI, quand les églises catholiques m'ont été passablement ouvertes, c'était de voir les gens qui venaient aux études bibliques dans ces églises, ils avaient chacun leur Bible. Et tout l'enseignement que je pouvais leur donner, ils étaient à même de contrôler dans leur Bible. Si ce que je leur disais était conforme aux Écritures auxquelles Jésus avait rendu témoignage. Et vous savez, pour un peuple qui pendant longtemps n'osait pas lire la Bible, eh bien, c'était quelque chose de merveilleux de voir vraiment cette illumination de certains cœurs. Mais c'est vrai, c'est écrit. Et comment est-ce que Jésus résistait au diable? Il est écrit, il a triomphé de toutes les tentations parce qu'il revenait toujours à la parole. Et alors, quand je me mettais à la sortie, des fois il y avait 300 personnes, c'est à Québec, au Montmartre canadien par exemple, et que je saluais les gens après avoir donné l'enseignement, vous ne saurez jamais ce que j'ai reçu dans ces poignées de main, ce monde qui s'en allait, et qui me disait, merci de nous avoir assez aimés pour nous apporter la parole. Il y a longtemps qu'on attendait cela. Alors vous savez, ces paroles-là me faisaient oublier toutes les critiques que bien des chrétiens évangéliques pouvaient me faire, parce que mon crime était d'aller dans des églises où il y avait peut-être encore des statues. Qu'est-ce que ça peut faire, les statues ? Vous en allez dans votre ville. Il y en a partout, dans les coins de rue aussi. Nous néantisons tout cela et nous apportons la parole. Parce que Jésus ne serait jamais venu sur la terre s'il avait pensé à ce qu'il devait y voir. Et il n'a pas eu peur même de toutes ces âmes qui s'approchaient de lui. Et ces âmes qui s'approchaient de lui, ce n'est pas les gens religieux. C'était qui ? Les pécheurs, les prostituées, les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Ils se sentaient aimés, ils se sentaient compris et non pas jugés et méprisés. Il faut commencer par aimer les âmes, comme Dieu les a aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, je veux croire, puisque vous avez vos Bibles, que dans ces quelques heures que nous allons passer ensemble, vous aurez aussi cette joie qu'ont eu d'autres personnes de découvrir vraiment la vérité. La vérité qui n'est pas dans un homme, mais qui est dans la personne même de Jésus. Et vous savez ce que Jésus disait dans sa prière à son Père, et je pense que nous allons faire l'expérience. Sa parole est la vérité. Et qu'est-ce qu'il ajoutait ? Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. C'est une parole qui peut nous sanctifier. Et qu'est-ce que c'est qu'être sanctifié ? C'est être mis à part. Vous n'allez pas suivre tous les mouvements d'aujourd'hui. J'ai ici une lettre d'un homme de Lyon qui a 80 ans, qui est un de mes amis, qui est un prêtre sulpicien, qui a un très grand poste à Lyon, et qui me dit ceci. J'ai reçu cette lettre hier, entre autres, il dit ceci, qu'il est très perplexe, je suis fort perplexe, de ces manifestations contre la guerre. Il est en Europe, hein, et il y en a des manifestations contre la guerre. C'est pas parce qu'il est pour la guerre qu'il dit ça. Mais moi aussi, j'ai la même perplexité quand j'entends dire que tant de personnes se sont réunies pour faire des marches. Il dit, je suis très perplexe de ces manifestations contre la guerre. D'autres disent pour la paix, et qui se déroule dans une violence verbale et même physique. Avec un vocabulaire meurtrier, c'est vrai. Hein? Et vous pensez que c'est en marchant dans les rues comme ça que vous allez arrêter la guerre, c'est en vous mettant à genoux dans votre chambre et en priant. Mais encouragez toute cette jeunesse. Je souhaite l'amour et pas la guerre. C'est bien ce qu'on a entendu. Et c'est bien pour cela qu'on ne voudrait pas la guerre, pour pouvoir continuer de vivre comme bon nous semble. Ce sont des choses auxquelles vous devez songer. Il y a des choses qui doivent changer dans chacune de nos vies. C'est facile de manifester, de prendre une pancarte pour ceci et pour cela. Mais quelle communion avez-vous? Est-ce que Jésus est là? Qui est-ce qui est notre paix? Le Christ le dit, il est notre paix. Alors, ce ne sont pas dans ces manifestations-là que nous voudrions vous voir. Mais je suis heureux que vous ayez répondu à cet appel et que vous acceptiez de consacrer quelques heures pour vous imprégner du message biblique et de ce que Dieu pense. Vous n'irez pas à dire que je suis pour la guerre. C'est pas ça. Et vous savez, une chose m'a beaucoup frappée. Le 17 janvier, j'étais très préoccupée au sujet de ce thème que je vous ai annoncé. La parole prophétique, une langue qui brille dans un lieu obscur. Et je me suis dit, ce sera peut-être trop compliqué. J'aurais peut-être dû prendre un autre sujet. Puis je suis allé vers un calendrier, j'ai un calendrier qu'on appelle, c'est un calendrier suisse, mais il y a un texte biblique pour chaque jour. Puis j'ai levé les feuillets pour le 1er février. J'avais besoin d'un encouragement. Parce que vous savez, on reçoit des drôles de lettres quelquefois, qui pourrait être décourageant. Puis vous savez ce que c'était le texte? La parole prophétique. C'était le thème qui a été choisi. Il n'y a pas de hasard. Hein? Mais ça m'a quand même frappé. Je lève le calendrier au 1er février. Alors ouvrez vos Bibles maintenant. Chapitre 1er de la 2e épître de Pierre. Et nous allons replacer le verset dans le contexte en lisant ce 1er chapitre et ces versets qui vont servir de toile de fond. C'est le verset 19e, n'est-ce pas, du chapitre 1er de la 2e épître de Pierre. Nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentif, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour et commencer à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans nos cœurs. Sachons ceci, premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même, car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par le Saint-Esprit. Que ce soit là dans une version ou dans une autre, ce sont les mêmes expressions que vous retrouvez. Quelle version avez-vous avec vous? 8 secondes. Comment? Trinitaire, oui. Peu importe, mais pour que ce soit peut-être plus facile, donc nous suivrons la version seconde, puisque je crois que c'est celle qui est le plus répandue ici. Nous allons en faire la lecture, mais on va faire la lecture de ce chapitre. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Littéralement, et c'est pourquoi j'aime bien la version la plus littérale, esclave de Jésus-Christ, doulos en grec. Siméon Pierre, esclave et apôtre. Mais d'abord, esclave. Est-ce que ça vous plairait d'être esclave? Ça dépend de qui. Mais si c'est de Jésus-Christ, mais c'est un bonheur formidable. C'est plus nous qui décidons. C'est lui qui décide. Et qu'est-ce que nous avons à faire, nous? Obéir. Un esclave ne discute pas. C'est une délivrance merveilleuse qu'arriver vraiment à cet esclavage. Pas simplement serviteur, hein, mais esclave. Je ne m'appartiens plus. Et ça, c'est purement biblique. Quand on a reçu Jésus comme sauveur, il nous a rachetés. Et quand on est racheté, on ne s'appartient plus. On a un Seigneur. C'est pourquoi Jésus ne doit pas rester seulement votre sauveur, c'est une bonne affaire d'avoir un sauveur, hein, mais il doit devenir le Seigneur de votre vie. Et quand vous dites qu'il est le Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui commande. C'est lui qui ordonne, c'est lui et qui vous fait agir. C'est lui qui est votre modèle. Alors, Pierre, l'apôtre, qui est donc l'envoyé, c'est ce que veut dire apôtre, de Jésus-Christ, il écrit à qui? J'aime beaucoup cette expression. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Et ici, il faut bien comprendre ce que veut dire le mot foi. La foi, c'est l'ensemble des vérités chrétiennes. Et ces vérités, Jésus donc les a communiquées à ses apôtres. Les apôtres nous les ont communiqués, nous les ont transmises, et ce qu'ils nous ont transmis a le même prix que ce qu'ont reçu les apôtres. La foi que nous avons en 1991, vous devez être assuré qu'elle n'a pas été dévaluée. Elle a le même prix que la foi des apôtres. Si vous croyez l'enseignement de Jésus, vous avez une foi vraiment apostolique. On parle d'une église universelle, c'est-à-dire catholique. Et c'est vrai, la vraie église devrait être universelle, hein, s'il n'y a qu'une église. Si vous prenez le sens du mot catholique. C'est Église universelle. Et elle est aussi apostolique, ça veut dire qu'elle suit l'enseignement des apôtres. Mais là, il faut savoir si vraiment ce qui s'appelle Église universelle ou Église catholique est vraiment apostolique. Ou bien si elle est devenue romaine. Parce que alors, c'est plus tout à fait universel, hein. Il y a une contradiction. Et quelquefois, on n'y pense pas. C'est comme le mot protestant, qu'est-ce que ça veut dire? On se sujette à la figure catholique ou protestant, ça ne veut plus rien dire. Qu'est-ce que c'était qu'un protestant autrefois? C'était un homme qui avait eu la connaissance de la Bible, qui avait pu lire la Bible, et qui protestait au nom de ce qu'il avait lu. C'était écrit. Et alors il protestait pour qu'on revienne à ce qui était écrit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il proteste? Si vous me dites que moi je suis protestant, ça ne veut rien dire. Un protestant, ça ne veut rien dire pour vous. C'est une religion. Ça ne veut rien dire. C'est pas ça qui vous sauve. Ce qui vous sauve n'est pas votre étiquette religieuse, c'est votre foi personnelle. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole du Christ. Alors, ce que vous entendez aujourd'hui quand vous lisez la Bible, ça a le même prix que qu'enseignait l'apôtre Pierre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que ça peut encore avoir le même prix? Que c'est encore la même valeur? C'est cela. Alors, si on est d'accord, qu'est-ce qu'on est? On est déjà unis. On a une unité qui est merveilleuse. C'est ce que me dit cet ami, sulpicien. Il faut revenir à la base. Et il se pose des questions au sujet de l'unité. Il faut revenir à la base. Et qu'est-ce que c'est la base? C'est la parole. Et quand on revient à la base, on se trouve d'accord. On a reçu donc en partage une foi du même prix que la nôtre. Et par quoi? Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Ce n'est pas parce que nous méritions ça, d'avoir une foi qui est le même prix que celle des apôtres. Mais Dieu, dans sa justice, n'a pas voulu que les uns soient plus favorisés que les autres. Par sa justice, car Dieu est juste, il a voulu que nous, en 1991, nous ayons, à cause de sa justice, une foi du même prix. Moi, je trouve ça merveilleux. La foi d'aujourd'hui a le même prix que la foi des premiers apôtres. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce que nous croyons repose sur ce qui est écrit. C'est ça la foi. Croire ce qui est écrit. Alors, le vœu qu'il faisait, et c'est le vœu que je vous fais aussi ce soir, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Est-ce que vous êtes venu avec un désir? Que vous receviez une grâce? Eh bien, cela nous est dit, hein, que la grâce. Et puis, dans ce temps de guerre, qu'est-ce que vous voudriez? La paix, n'est-ce pas? Vous voulez la paix, moi aussi je la veux, la paix. Mais je n'ai pas besoin de marcher sur la route. Nous voulons la paix et la grâce. Mais comment peuvent-elles nous être multipliées, la grâce et la paix, par toute espèce de manifestation? Vous croyez que ça avance les choses, ces manifestations-là, extérieures? La grâce et la paix vous sont multipliées par quoi? Vous l'avez lu, n'est-ce pas? Nous sommes des cinq. Ben, nous prenons ça au moins. Hein? La grâce et la paix vous sont multipliées par la connaissance de Dieu. Est-ce que vous croyez qu'ils s'entretiennent de la connaissance de Dieu sur les routes en marchant et pour la paix ou contre la guerre? C'est par la connaissance de Dieu. Vous voyez qu'on peut s'arrêter sur chaque mot. Hein? Et comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? Qui est-ce qui peut nous révéler Dieu? La parole. Mais quelle personne? En qui est-ce que vous pouvez voir Dieu? Qui est-ce qui était l'image du Dieu invisible? C'est Jésus, n'est-ce pas? Alors, nous pouvons donc avoir la grâce et la paix multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. On ne peut pas séparer le Père du Si. Celui qui m'a vu, disait Jésus, il a vu le Père. Et si les hommes ne connaissent pas Dieu, c'est qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Mais personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Et c'est une révélation de connaître Dieu et de le connaître comme Père. Parce que Jésus, quand il parlait de Dieu, qu'est-ce qu'il disait de lui? C'était son Père. Et qu'est-ce qu'il a voulu nous faire connaître? Que son Père pouvait devenir notre Père. Que son Dieu pouvait être notre Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Eh bien voilà, nous avons donc maintenant une assurance. Et que en apprenant à connaître Dieu et Jésus-Christ, la paix et la grâce nous seront multipliées. La grâce nous sauve, la grâce nous fortifie, la grâce nous enseigne. Nous ne sommes plus sous une loi rigide, mais nous connaissons l'amour. Et maintenant, nous pouvons grandir. Verset 3. Sa divine puissance, vous voyez que c'est, ça vient tout de son côté à lui. Sa divine puissance nous a donné quoi? Tout. Est-ce que vous croyez à ça? Mais vous comprenez, vous, pas que ce soit des versets qui restent dans la Bible. Il faut que ça se fixe dans votre sensibilité. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Qu'est-ce que c'est que la piété? C'est notre relation avec Dieu. Eh bien, du côté de Dieu, il n'y a pas d'obstacle pour que vous ayez une vie différente de celle que vous menez. Il vous a donné, par sa divine puissance, tout. Est-ce que vous le croyez? Mais pour prendre tout, qu'est-ce qu'il nous faut? Mais si je veux tout maintenant, il faut que j'ai les mains vides pour que je puisse saisir ce qu'il va me donner. Est-ce que nous sommes prêts à laisser tomber tout ce qui nous empêche d'avoir? Parce que nous avons trop de choses. Mais ces choses ne sont pas Dieu, ne sont pas Jésus-Christ. Tandis que quand nous faisons la paix de toutes choses, nous recevons tout. Paul dit, tout ce que j'avais et qui faisait ma gloire, hein, il dit ça dans le chapitre 3 des Philippiens, tout ce qui était pour moi un gain, j'ai estimé cela comme une perte, afin de gagner le Christ. Et j'estime même tous les avantages que j'avais selon la chair comme des ordures. Hein? Il dit pas, j'ai fait des sacrifices pour Dieu. Non, mais quand j'ai vu ce qu'il m'offrait, j'ai tout lâché. Mais vous devez saisir cela. Dieu vous offre tout. Et il vous donne tout ce qui contribue à la vie. Vous voudriez la vie, une vie plus réelle. Vous l'avez. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance. Mais de la connaissance de quoi? D'une personne. Au moyen de la connaissance de celui qui vous a appelé à quoi? À quoi êtes-vous appelé? À ça propre gloire. Mais peut-être que vous aimeriez mieux qu'on vous appelle à être décoré et je ne sais trop quoi. Le prix Nobel de la paix. Vous voulez? C'est ça que vous voulez? Vous êtes appelé à autre chose. Il vous a appelé à sa propre gloire. Il vous a appelé par sa propre gloire, par sa gloire. Hein. C'est un appel qui vient d'en haut. par sa propre gloire et par sa vertu. Qu'est-ce que c'est que la vertu? C'est la force, c'est l'énergie, c'est la puissance. Par sa propre gloire et par sa vertu. Et celle-ci, donc sa gloire et sa vertu, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Est-ce que nous les connaissons un peu? Est-ce que nous voulons les connaître? Alors, lisons la parole. Afin que par elle, vous deveniez participants. Oh, alors ça, c'est formidable. Participants de quoi? De la nature divine. Mais est-ce que vous saisissez, est-ce que moi je saisis que Dieu voudrait nous faire connaître que nous ayons quoi? Une participation à sa nature. Alors, participer à sa nature, il est saint, il est juste, il est amour, c'est le Dieu de paix, tout ce qui il est, nous pouvons participer, nous pouvons avoir tout ce qu'il est. Il a tout donné, il a donné son fils et son fils nous a donné sa vie. Et tout ce qu'était Jésus, vous pouvez le recevoir et lui ressembler. Vous le chantez, hein, te ressembler Jésus. Mais vous devez maintenant saisir ces choses. Participer à la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc vous voyez qu'il y a des choses qu'on doit fuir. Mais je ne pense pas que c'est en allant faire des marches avec n'importe qui. Les blasphémateurs qui ne vivent pas du tout selon les principes bibliques, que vous allez recevoir la bénédiction en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il faut savoir pourquoi nous ne faisons pas ceci et que nous ne faisons pas cela. On dit, mais tout le monde le fait. Et puis ce sont des bonnes choses. Et c'est bien de marcher pour la paix. Qu'est-ce qui existe dans le monde? Qu'est-ce qu'il a dit là? Qu'est-ce qui existe dans le monde? La convoitise. La corruption. Regardez un peu ce qui existe dans le monde maintenant. C'est la corruption. Sur toute la ligne. C'est pas trop dire. Il y a la corruption et l'Église. C'est un fait prouvé. La corruption est là partout. Mais d'où vient-elle? Par la convoitise. Tout ce que le monde vous offre, c'est convoitise des yeux, convoitise de la chair. Et l'orgueil de la vie. Alors verset 5, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Vous dites que vous avez la foi, et je veux bien croire que vous avez la foi au Seigneur Jésus, que vous croyez en lui. Mais joignez à votre foi, ça ne suffit pas de dire j'ai la foi, mais il vous faut la vertu, c'est-à-dire cette force qui peut vous faire dire non à cette chose, quand même le monde dit oui. N'est-ce pas? Il faut joindre à sa foi la vertu. On peut être croyant, l'autre était croyant, mais quand il a dû choisir, au moment de sa séparation avec Abraham, qu'est-ce qu'il a regardé? La convoitise des yeux. Il a regardé les plaines de Sodome qui étaient luxuriantes, qui étaient belles. Mais ce qu'il savait pourtant, c'est que les gens de Sodome étaient de grands pécheurs devant l'Éternel. Mais il a dit, Lot leva les yeux et vit les plaines de Sodome qui étaient comme le jardin de l'Éternel et il choisit pour lui. C'est le mauvais choix. Il n'est pas esclave là. Il choisit pour lui. Il est le maître, choisi pour lui. Mais il place sa famille, sa femme, ses enfants auprès de ces pécheurs. Et qu'est-ce qui arrive quand on a des filles et qu'on les amène dans une ville de pécheurs? Une fille qui grandit, elle veut se marier. Alors après, on s'arrache les cheveux. On met nos enfants, au fond, en présence du maître, puis après on se lamente du choix de nos enfants. Lot n'avait pas la vertu. Il tourmentait son âme. Il était la cause de ses tourments. Il n'avait pas besoin de se mettre là. Mais il a choisi pour lui. Alors vous voyez, à cause de ça même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Vous avez la foi, mais je vous le demande, est-ce que vous avez la vertu? Si vous sentez que vous avez de ce côté-là une faiblesse, que vous ne pouvez pas dire non, que vous êtes plutôt entraîné, eh bien qu'est-ce que vous pouvez demander à Dieu? La vertu, puisque ça fait partie de ses promesses. Hein. Sa divine puissance nous a donné tout. Donc la vertu fait partie de ce tout. Alors, vous avez la foi, c'est déjà beau, mais puisqu'il vous dit qu'il vous a donné tout, et que vous sentez qu'il vous manque peut-être cette vertu, cette force, cette énergie, pour ne pas ressembler à tout le monde, eh bien demandez-lui, Seigneur, donne-moi la vertu. Est-ce que c'est selon sa volonté?
Oui.
Alors, si vous demandez une chose qui est selon sa volonté, qu'est-ce qui arrive? Vous l'avez. Vous pouvez déjà rendre grâce, merci de ce que tu m'as donné la vertu. Tu m'as donné la force. Je ne regarde plus à ma faiblesse, je regarde à toi qui es fort. Hein? Jésus a vaincu Satan. Et il est le vainqueur en vous si vous lui laissez la place. Alors joignez à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. On dit, oh mais puisqu'on a la foi, on le connaît. On est Paul, qu'est-ce qu'il disait? Qu'il cherchait à le connaître, lui. On a, une fois qu'on connaît le Seigneur, on désire le connaître davantage. Et plus on le connaît, plus on est béni. Alors, il faut demander encore cette connaissance. Et vous voyez, Job était un homme très pieux, Job était un homme qui avait la foi, qui avait la vertu. Il ne faisait pas comme tout le monde. Et il était tellement différent que Dieu disait à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job, hein? Il n'y en a pas un comme lui, craignant Dieu et se retirant du mal. Donc, il avait la foi et la vertu. Mais quand il a été dans sa grande épreuve, qu'est-ce qui lui manquait? La connaissance. Et au bout de son épreuve, qu'est-ce qu'il a dit? J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, n'est-ce pas? Et je me repens dans la poussière et dans la cendre. Donc un homme comme Job, que vous pouvez prendre comme exemple, il manquait de la connaissance. Il dit, j'ai parlé sans comprendre de choses trop merveilleuses pour moi et que je ne connaissais pas. Vous voyez ce que ça veut dire ici? Comme c'est beau ce chapitre, hein? Joignez à votre foi, vous l'avez la foi, la vertu. Vous l'avez demandé, vous l'avez. Mais maintenant, qu'est-ce que nous avons dit? Oh ben ça me suffit? Non, j'ai besoin de la connaissance. Parce que quand vous avez cette connaissance, quand une épreuve vous arrive, vous ne mettez plus en doute la justice de Dieu, la bonté de Dieu ou la puissance de Dieu. Vous dites, lui, il sait pourquoi. Il ne se trompe pas. Moi, je ne comprends pas, mais ce n'est pas nécessaire que je comprenne, pourvu que je sache que lui sait. N'est-ce pas? Et je sais que Dieu ne peut pas être injuste. Et que s'il me fait passer par cette épreuve, c'est qu'il m'aime beaucoup et qu'il veut me donner encore davantage. Et quand on est dans une épreuve, au lieu de se dire « Oh, ça ne va pas », comment est-ce que Dieu va s'y prendre pour m'en sortir? Alors c'est tonique, hein? On va avoir une délivrance, puisque on n'aurait pas de délivrance si on n'avait pas d'épreuve.
Alors réjouissons-nous à la pensée de la délivrance qu'il peut nous donner. Il faut apprendre à le connaître. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle, tu lui aurais demandé à voir, et il serait donné de l'eau vive. Et tu vois, tu sais tout. Hein, oui. La Samaritaine, elle l'a eu, cette connaissance. Et à la connaissance, qu'est-ce qu'il faut encore? La tempérance, ou littéralement, la maîtrise de soi. Ah mais c'est vrai, j'ai la foi, j'ai la vertu, je sais dire non au mal, j'apprends à connaître Dieu, mais je ne sais pas me maîtriser. Ou être tempérant. La maîtrise de soi, c'est l'équilibre. Et vous savez, on peut avoir la foi, on peut avoir la vertu, on peut avoir la connaissance, mais il y a des hommes de Dieu qui ont manqué de tempérance ou de maîtrise de soi. Qui, par exemple?
Oui.
David,
Noé,
oui. Qu'est-ce qu'il a? Il a cultivé la vigne, hein. C'est qu'il ne savait pas trop ce que ça allait donner. Et puis il a trop vite, puis il s'est dévêtu. Alors il a donné une occasion de scandale pour ses enfants. Mais vous voyez, la maîtrise de soi, c'est pas mal de boire un verre de vin, mais il n'y a pas besoin de boire le tonneau. La maîtrise de soi. En toute chose. Et puis, à la maîtrise de soi, qu'est-ce qu'il faut encore?
La patience.
La patience. Qu'est-ce qui était un homme extrêmement patient? Moïse. Et de quoi a-t-il manqué à un moment donné? De patience. Il a frappé deux fois le rocher. C'était pas nécessaire, il devait parler au rocher. Et voilà, dans un moment où, de stress, où le peuple, au fond, le fatigue et qu'il n'en peut plus, le peuple murmure toujours, eh bien, Moïse frappe deux fois le rocher. Mais il est le serviteur de Dieu, l'esclave de Dieu. Et ça, il ne devait pas le faire. Et parce qu'il a manqué de patience, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'est pas entré dans le pays. Vous savez, Dieu nous traite avec fidélité dans les deux sens. Hein. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est bon, mais ce n'est pas le bon Dieu hein, qu'on met dans sa poche. Notre chum, comme il dit. Dieu, c'est mon chum. Quel respect. La patience. Et à la patience, la piété. La piété, c'est justement ce qui concerne notre relation avec Dieu. Un homme pieux, c'est pas un homme qui est toujours à genoux ou qui fait des prières comme ça, là. Un homme pieux, c'est un homme qui est vraiment en relation avec Dieu. Il conduit sa voiture, il se rappelle qu'il y a des lois et que on doit les respecter. Et il prie, tout en conduisant. Mais il est dans son travail. Mais il sait que Dieu sait tous les métiers. J'ai une difficulté, il lui connaît. Alors, on a recours à Dieu. Non, mais quand même, vous n'allez pas parler à Dieu de tout ça. Oui. Parlez-lui de tout. Faites-le entrer dans votre vie. Arrivez à dire, je ne puis rien faire sans... lui, sans toi. Vous verrez comme votre vie va changer. Parce qu'alors lui aura toute la gloire, sera glorifié. Il désire se glorifier en vous. Vous êtes appelés par sa gloire et par sa vertu à vivre cette vie-là. Ce sera sa gloire à lui de voir des hommes qui lui ressemblent, qui manifeste une participation à sa nature. Oh, que le Saint-Esprit vous convainque. Moi, je ne peux pas le faire. Mais je veux qu'il me convainque, moi. Parce que tout en vous prêchant, je suis assis avec vous. Et je me prêche à moi-même. Parce que j'en ai tous les jours besoin. Pour que ma relation avec Dieu soit constante. Ma piété. Et alors, à la piété, l'amour fraternel. Pourquoi est-ce qu'on s'aime si peu? Si on était vraiment en relation avec Dieu, on aurait davantage d'amour pour les autres. Si je dis que j'aime Dieu et que je ne manifeste pas mon amour aux autres, aux hommes que je vois, je suis un menteur. Il n'y a pas de réalité. Et vous savez, les amis de Job, ils avaient la foi en Dieu, ils ont parlé de Dieu. Ils avaient une certaine vertu. Ils ont parlé aussi de vertu. Ils ont parlé. Ils avaient une certaine connaissance. Au fond, ils croyaient connaître. Mais ce dont ils ont manqué le plus, c'est l'amour fraternel. Ils l'ont jugé. Alors que Job, ne sachant pas pourquoi lui passer par un tel jugement, il aurait eu besoin de l'amitié fraternelle. Mais au contraire, on vient lui dire, si tu es éprouvé de cette manière, c'est qu'il y a quelque chose de caché dans ta vie. Et vous savez, on est drôlement comme ça, nous. Les amis de Job sont morts, mais nous les remplaçons bien souvent. N'est-ce pas? Pour les âmes qui sont dans le doute, dans la peine, au lieu de les aider, on vient mettre encore le doute dans leur cœur, au lieu de leur enlever le doute, de leur dire, mais Dieu ne t'a pas abandonné, ce n'est pas vrai, c'est Satan qui te dit cela. Dieu n'abandonne pas les siens. Ben, ils ont manqué d'amitié fraternelle. Et puis, par-dessus tout, l'amour. Voilà. Alors, vous voyez maintenant ce que vous devez joindre à votre foi, la vertu. C'est un merveilleux collier, comme on l'a dit quelquefois, avec cette pièce, n'est-ce pas, qui doit nous caractériser. C'est ça qui doit nous caractériser, si on a la foi. Car, verset 8, si ces choses sont en vous, et ils sont, comment? Avec abondance. Donc, nous devrions être des gens remplis, des gens qui débordent. Si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Laisse le Seigneur te remplir. Ça débordera. Vous ne serez ni oisifs ni stériles. Vous verrez que Dieu vous donnera les possibilités et les occasions sans que vous ayez à vous demander qu'est-ce que je pourrais faire pour lui. Sois toi-même dans le Seigneur et il t'emploiera. Elles ne vous laisseront ni oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et même si vous vous dites, mais moi j'ai pas de don pour parler, il mettra sur vos lèvres les paroles qui seront appropriées pour telle ou telle personne dans telle ou telle difficulté. Si vous êtes dans la main du Seigneur, le Seigneur ne fera pas de vous un oisif et un stérile. Mais vous serez dépréoccupé de vous-même. Vous ne vous direz pas, oh, moi j'ai fait beaucoup de travail aujourd'hui. Et le soir, alors vous comptez tout ce que vous avez fait. On ne se préoccupe plus de cela. Notre vie est au Seigneur. Et c'est lui qui juge. Mais celui en qui ces choses ne sont point, qu'est-ce qu'il est? Il a une courte vue. Il est aveugle. Il est aveugle, il ne voit rien. Il est dans ce monde obscur, hein. Il ne voit pas loin, donc il est myope. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Pourtant, on a connu à un moment donné cette purification. Mais voilà, on s'est habitué. Puis, il y a des habitudes qui nous reprennent. Et pourtant, on avait une autre vie. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'abandon du premier amour? De revenir au premier amour, c'est parce qu'on s'est habitué, puis on a oublié, on a une courte mémoire, nos anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, c'est-à-dire votre appel et votre élection, vous êtes élus, car en faisant cela, qu'est-ce qui vous arrivera? Vous ne broncherez jamais. Donc, est-ce qu'il y a une vie victorieuse? Vous ne broncherez jamais. Mais vous devez le croire. Ce n'est plus dans l'épître de Pierre que ces choses se trouvent, c'est dans votre cœur. Je me suis souvent demandé pourquoi mon père, que je vénère beaucoup, il est mort à 80 ans, les dernières années de sa vie, je l'ai peut-être entendu 4 ou 5 fois méditer dans les églises sur ce chapitre-là. Puis je me disais, mais pourquoi est-ce que papa, il a oublié qu'il a déjà prêché là-dessus? Mais je me suis rendu compte qu'il était devenu un amoureux de ces textes parce qu'il lui avait apporté la grande bénédiction. Et mon père qui attendait le Seigneur, il n'a jamais attendu la mort. Mais il est mort, oui, mais il ne l'attendait pas. Il était complètement détrompé. Il attendait Jésus. Et il aimait ce chapitre. Et en le relisant, ces jours, pour m'imprégner de cela, j'ai compris combien il avait raison. Et je voudrais que vous aimiez aussi ces paroles. Que ces textes deviennent les vôtres. Puis que vous y pensiez. Dans la journée, il y a toutes sortes de pensées qui nous viennent. Hein, puis tout à coup, la parole. J'ai serré par devers moi les paroles de sa bouche plus que les propos de mon cœur. Quand je suis dans la difficulté, dans la peine, il y a toutes sortes de propos qui me viennent, mais tout à coup, la parole, si on en est imprégné, elle nous revient. J'ai serré par devant moi les paroles de sa bouche. C'est ainsi que vous ne broncherez jamais et que l'entrée, verset 11, dans le royaume éternel, parce qu'il y a un royaume, on va s'en occuper, ces jours, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera largement accordé. Donc on pourrait penser qu'il y a une grande porte pour entrer dans le royaume, puis aussi une porte de service. Alors est-ce que vous voulez entrer par la grande porte? Avoir une riche entrée, ou comme l'a dit quelqu'un, une chiche entrée. Je suis sauvé. Je réponds en enfer. C'est ça tout votre avenir? Le Seigneur voudrait vous faire entrer par la grande porte, non pas par la porte de service. Comprenez-vous? Il voudrait que vous ayez une riche entrée, et il vous dit comment. Vous pouvez l'avoir. Et c'est moi qui vous le dis? Non. C'est pas moi. Je veux que vous en preniez la parole. Vous aurez une riche entrée. Alors méditez. C'est ça méditer, c'est repasser dans vos cœurs ces choses. Et vous voyez, l'apôtre Pierre sentait qu'il allait mourir. Voilà pourquoi, verset 12, je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente, je veux le croire aussi pour vous. On nous dit toujours qu'on n'est pas nourri dans les églises, on manque de nourriture. Mais si vous lisez la parole, vous avez la nourriture. Nourrissez-vous de la parole. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Et c'est à cause de cela que nous avons ce chapitre. Nous sommes les bénéficiaires aujourd'hui de ce qui a été dans le cœur de Pierre, qui voulait que, en 1991, dans une certaine rencontre, ici, au manoir d'Youville, eh bien, nous soyons affermis dans la vérité passée, présente, dans la vérité présente, elle est toujours présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Il était campeur. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est son corps. Notre corps, elle n'est qu'une tente. Hein? Tant que je suis dans cette tente, de vous venir, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, quoi. Cette tente, ce corps, hein? Ainsi que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, me l'a fait connaître. Est-ce que c'est vrai qu'il lui avait fait connaître ça? Quand tu seras devenu vieux, un autre te ceindra et te conduira où tu ne voudrais pas aller. Hein? Et il lui indiquait de cette manière de quelle mort il glorifierait Dieu. Vous avez déjà pensé à cela? Nous n'attendons pas la mort, nous attendons Jésus, c'est vrai. Hein? Mais si nous devons mourir, nous ne voudrions pas mourir bêtement. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous voudrions avoir une mort qui glorifie Dieu, comme nous voudrions avoir une vie qui a glorifié Dieu. Et mourir, pas mourir stupidement, parce que j'ai brûlé un feu rouge. Hein? Je serais peut-être tué, mais j'aurais tué aussi. Puis je suis un chrétien, beau chrétien. Vous devez aussi y penser. Nous devons avoir une mort qui glorifie Dieu. Ma femme racontait, je l'entendais tout en écrivant ce texte, racontait à quelques-uns ici la mort d'un certain homme dans l'Alberta et qui meurt après avoir prêché, qui descend après avoir loué le Seigneur, avoir été un instrument de Dieu pour sauver des vies. Eh bien, il descend de l'escalier, il a fini sa prédication et il a repris. C'est magnifique. Je connais un colonel de l'armée du salut qui, le jour de Pâques, a prêché sur la résurrection et puis il a levé les bras à un moment donné, il était âgé. Et puis il a dit « Gloire à Dieu, gloire à Dieu !» C'était bon, il était pas. C'est beau, hein? C'est pas une mort déshonorante. Partir en ayant comme dernier mot, gloire à Dieu. C'est pas cambronne. Je vais pas vous donner de renseignements là-dessus. Mais mourir avec la louange. N'est-ce pas merveilleux à la fin de sa vie? Mais même ici à Montréal. J'ai assisté à une mort à la fin d'un culte. Ce frère a prié, il était âgé, et puis tout d'un coup, après avoir dit Amen, il est tombé dans mes bras et il est mort sur mon cœur. Mais c'est beau de mourir dans un culte. Hein? Je me souviens d'un autre. Nous allions au culte les deux ici à Montréal dans une église. Le long du chemin, celui qui conduisait me dit, Gaston, parle-moi de la cité céleste. Pourquoi lui parler de la cité céleste quand on allait au culte? Parle-moi de la cité céleste. Qu'est-ce que je vais lui dire sur la cité céleste? Hein? Je vais aller voir dans le dictionnaire? Qu'est-ce que je peux lui dire de la cité céleste? Mais est-ce que j'y vis un peu, moi, dans cette cité céleste? Mais comment est-ce que je peux y vivre? Qu'est-ce que je peux savoir de la cité céleste? Par la Bible. Mais ça doit être dans mon cœur. Je ne peux pas ouvrir ma Bible là, dans l'auteur. Alors je vais parler de la cité céleste. Deux jours après, il était. J'ai dû faire son enseignement. Mais il y était dans la cité céleste. Et il en avait, je pense, comme le pressentiment. Mais il avait le visage épanoui quand il me demandait cela. Il y a 30 ans exactement, 31 ans, et oui, un jeune homme me conduisait de Trois-Rivières, et il y en a qui l'ont connu peut-être, à La Tuque, la première fois que j'étais au Canada. Puis tout d'un coup, il me dit, Monsieur Racine, voulez-vous me parler du ciel? Je dis, pourquoi? Un jeune homme de 27 ans. Parce que dans 2 mois, j'y serai. dis comment? On est étonné, hein? Tu m'as dit, bien, j'ai un cancer, et les docteurs m'ont dit que je ne passerai pas plus de 2 mois. Alors je sais où je vais, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Parlez-moi de la cité céleste. Parlez-moi du ciel. Alors jusqu'à la tuque, en montant là, il conduisait. J'ai pas eu peur d'aller dans les fossés. Hein. Un mourant qui me conduit. Mais je suis aussi mourant que lui. Mais on ne sait pas. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Votre cœur bat. Mais ça peut s'arrêter. Alors, il faut être prêt. Et c'est ça qui est tellement merveilleux. Moi, j'ai dû quitter le Québec. Mais 2 mois après, j'ai reçu le faire-part. C'est Albert Turcotte, il s'appelait Albert Turcotte, on connaît bien sa sœur aussi. Il était auprès du Seigneur. Vous ne trouvez pas que c'est beau? De pouvoir se parler même du départ de l'amant, sans que ce soit le cimetière, sans que ce soit la catastrophe. Je l'ai déjà peut-être dit quand la mère de ma femme qui était en Chine. Et il y a eu des guerres en Chine terribles avec les Japonais et tout ça. Puis quand on lui demandait, mais vous n'aviez pas peur quand les Japonais voulaient vous couper la tête? Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient nous faire? C'était de m'envoyer berger. Je trouve que c'est admirable. Tout ce qu'on peut nous faire, c'est de nous envoyer berger. Alors vous êtes délivrés de la crainte de la mort. Jésus est venu pour nous délivrer de la crainte de la mort. Nous savons où nous allons. Ce sont des exemples pratiques, et pas du siècle dernier, de ce siècle, de ces années-ci. Et alors vous voyez, c'est ce qui nous occupera demain matin. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, verset 15, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Est-ce qu'il a été exaucé? On s'en souvient ce soir. Je ferai pour qu'après mon départ, vous puissiez vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables. Alors là, comprenez-le bien, hein, avant de vous endormir ce soir. Ce que nous allons vous dire, ce ne sont pas des fables. Habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas une fable, le retour de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne va pas revenir symboliquement. Il n'est pas venu symboliquement la première fois. Il était un petit enfant. Il n'est pas mort symboliquement sur la croix. Il est réellement mort. Il a été enseveli. Son corps a été mis dans le tombeau. Il est ressuscité. Symboliquement? Il est monté au ciel. Symboliquement? On l'a vu monter au ciel. Et qu'est-ce qu'il a dit? Si je m'en vais, je reviendrai. Alors, c'est symbolique son retour? Et quand reviendra-t-il? Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous n'allons pas mettre le jour ni l'heure, hein, parce que de toute façon, on se tromperait. Parce que dans le monde, ce ne sera pas le même jour, puis ce ne sera pas la même heure. Mais ce ne sera pas le même moment. Mais on vous dit maintenant, vous l'entendez tous les jours, il est maintenant 10 heures à Québec, et quelle heure? Au Golfe Persique? Hein? On vous le dit. Alors vous savez bien que ce n'est pas le même jour, que ce n'est pas la même heure. De sorte que quand Jésus dit qu'on ne peut pas savoir le jour et l'heure, c'est vrai. Parce que de toute façon, ça ne sera pas le même jour, puis ça ne sera pas la même heure, mais ça sera le même moment. Et c'est ça qui est fantastique. Alors il nous faut être toujours prêts, mais dire le jour et l'heure, ça ne nous concerne pas. Mais nous sommes sûrs de l'avènement du Seigneur. Et il dit que lui, ce n'est pas par des fables qu'il a raconté cela, mais nous vous avons fait connaître l'avènement de notre Seigneur. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos yeux. Parce que c'est à quel moment est-ce qu'ils ont vu sa majesté? À la transfiguration, parce que Jésus s'était anéanti. De sorte que beaucoup de Juifs ne pouvaient pas croire que c'était le Messie. Mais il a donné à trois de ses disciples une vision de ce qu'il était réellement. Et il a été transfiguré sur la Sainte Montagne. Il était dans la gloire avec Élie et Moïse, n'est-ce pas? Et l'apôtre Pierre l'a vu glorieux. Et il dit, car il a reçu de Dieu le Père, verset 17, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Donc tout l'enseignement qu'il va nous donner et que nous allons lire et que toutes ces paroles prophétiques reposent sur ce témoignage-là. Ce ne sont pas des fables, vous pouvez le croire. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique. Vous voyez, il y a deux témoignages. Donc il a vécu avec Jésus, mais il a vu sa gloire sur la Sainte Montagne avant de mourir, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans mon cœur. Et vous voyez, la dernière 5 semaines que nous avons eues l'année dernière, hein, donc en novembre, c'était sur ce thème, le matin vient et la nuit aussi. Donc vous voyez que nous allons rejoindre au fond ce qui a été dit. Et qu'est-ce que c'est que l'étoile du matin? C'est Jésus. Je suis l'étoile brillante du matin. Et alors je voudrais vous dire simplement ceci pour terminer, parce que c'est ça que je trouve merveilleux. Les disciples, qu'est-ce que c'est que l'étoile du matin pour vous? Quelle est cette étoile? Comment se prend-elle? Non, mais d'une façon générale, dans le monde. C'est quelle planète, l'étoile du matin? C'est Vénus. C'est la planète Vénus. C'est la planète Vénus. Et la planète Vénus, c'est la première étoile que l'on voit quand le soir, quand le soleil se couche. Et c'est la dernière que l'on voit le matin avant que le soleil se lève. À un tel point que pendant longtemps, les savants pensaient qu'il y avait 2 planètes, mais c'était la mer. Et maintenant, on est certain que c'est la mer. Donc, l'étoile du soir, c'est aussi l'étoile du matin. Alors, quand Jésus, qui est appelé le soleil de justice, est reparti dans le ciel, hein, la lumière qui était venue s'en est allée, les disciples, c'était le soir pour eux. Mais qu'est-ce qui s'est levé dans leur cœur? L'étoile. L'étoile. Cette étoile du soir. C'est ce qu'ils voyaient encore de Jésus. Parce qu'il dit, je suis l'étoile. De sorte que dans la première église, quand Jésus est parti, qu'est-ce que l'on attendait? Le retour du Seigneur. Dans l'Église primitive, l'attente du retour de Jésus était vivante, était active. Parce que le soleil s'était couché, mais il restait dans leur cœur, leur trésor, c'était l'étoile qui s'était levée. Et puis, alors, pendant la nuit dans laquelle nous sommes, c'est la lune qui éclaire. Et la lune est une figure de quoi? Si le soleil, c'est la figure du Christ, la lune, c'est la figure de l'Église. L'Église devrait refléter la lumière du Christ. Mais hélas, ce n'est pas toujours le cas. Mais l'Église est considérée dans l'Écriture comme la lune qui devrait refléter la lumière du soleil. Elle n'a pas de lumière propre, c'est le reflet de la lumière du soleil. Et les étoiles aussi, n'est-ce pas? Chaque chrétien, individuellement, nous devrions être une étoile. Mais à la fin des temps, il est parlé de l'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs. Et nous croyons que nous sommes arrivés à cette fin des temps. Nous allons essayer de vous le prouver par l'écriture. Hein. De sorte que ce que nous allons Voir, c'est l'étoile du matin, qui vient avant le lever du soleil. Donc il y a un événement qui doit se produire avant que le Christ revienne sur la terre, c'est le lever de cette étoile du matin que nous considérons comme l'enlèvement de l'Église. L'Église, qui est le corps de Christ, ce que nous allons voir, doit disparaître de ce monde. La vraie Église, qui est composée de tous les croyants où qu'ils se trouvent, doit d'abord disparaître, être prise par le Seigneur Jésus qui viendra sur les nuées du ciel d'abord pour ravir les siens, et ensuite il reviendra avec les siens. C'est le corps de Christ tout entier qui va être vu du monde. Quand Jésus reviendra, il ne reviendra pas seul. Il reviendra tête et corps réunis. Or, le corps de Christ, c'est quoi? C'est l'Église, c'est les croyants. Mais ceux qui ont la vie, parce qu'on peut être d'une Église et ne pas être au Seigneur. Comprenez-vous? C'est pas votre appartenance à une Église, et je n'en accepte aucune, qui fait que vous êtes au Seigneur. C'est votre foi personnelle à Jésus. Et vous êtes membre d'un organisme dont la tête est dans le ciel. De sorte que vous devez être dirigé par une tête qui est dans le ciel et non pas par les mouvements du monde. Vous avez une direction céleste. Alors, mes amis, c'est cela qui va nous occuper dès demain. Et nous avons trouvé vraiment le chapitre qui nous ouvre là. Maintenant, mes amis, vous avez ce petit... Eh bien, chers frères et sœurs, chers amis, j'ai de la joie ce matin à vous saluer dans le Seigneur. Et je veux croire de tout mon cœur que vous avez passé une nuit de paix. Une nuit toute remplie du souvenir de toutes ces précieuses promesses dont nous avons parlé hier en lisant le chapitre premier de cette deuxième épître de l'apôtre Pierre. Et je veux croire aussi que vous êtes heureux dans cette maison et que vous savez où vous êtes, hein. Le manoir d'Youville, c'est peut-être un peu difficile le soir de le trouver. Et l'on peut s'égarer, aller du côté des États-Unis, mais enfin, on peut revenir sur ses pas quand on s'égare. Et trouver quand même cette maison. Ceux qui me connaissent un peu savent que je l'aime, cette maison. Et que je chéris aussi la mémoire de celle qui est à la base de ce travail que nous pouvons faire aussi ici et qui s'appelle Marguerite Youville, dont vous avez là une image qui rappelle sa mémoire. Et je veux croire que vous êtes un peu curieux et que en passant dans le couloir vous aurez vu ce petit pamphlet Marguerite Youville, et que vous aurez eu aussi un intérêt à l'ouvrir et à lire ce qui est dit d'elle. Elle est née en 1701 et elle est décédée en 71, je pense. Elle est née à Varennes. Je le dis habituellement chaque fois parce que je voudrais que vous sachiez quand même où vous êtes. Et pour moi, c'est une femme qui m'a beaucoup inspirée, qui est très complète. Elle a connu le deuil quand elle n'était qu'enfant. Elle a perdu son père à l'âge de 7 ans. Puis, elle a été élevée par sa mère qui s'est remariée, et à cause de ce remariage, elle a vu son premier amour brisé, elle n'a pas pu épouser l'homme qu'elle aimait parce que sa mère avait fait un second mariage avec quelqu'un qui n'était pas accepté en ce temps-là au Québec. C'était pourtant un médecin, mais c'était un étranger. Et voilà, elle a été brisée dans cette affection quand elle était jeune, et vous savez ce que c'est que ce brisement pour plusieurs de nos jeunes aujourd'hui. Eh bien, elle a traversé cela, puis, bon, elle s'est mariée. Pour quelques années, son mari est mort. Elle n'a pas été heureuse avec son mari, mais elle l'a quand même aimé. Elle l'a soigné, il est mort très jeune. Et elle était veuve avant 30 ans. Alors, elle avait connu aussi la mort de ses enfants, de deux enfants, je crois, puis elle en avait encore deux. Mais au lieu de s'abîmer dans sa souffrance, cette femme s'est confiée en Dieu et en sa providence. Et voyez-vous, je ne veux pas faire le panégyrique de Marguerite Duville, mais quand je vois, même dans des familles dites évangéliques, chez les jeunes, quand j'entre dans la chambre d'une jeune fille et que je vois un grand poster de Marilyn Monroe, ça me fait mal. Et je me dis, j'aimerais mieux voir un poster de Marguerite Duville. Comprenez-vous? Pour inspirer nos jeunes, une femme qui a mis dans toutes ses épreuves sa confiance dans la providence, c'est-à-dire dans cette sagesse qui conduit Dieu en toutes choses, dans toutes ses voies, et qui accepte sa volonté. Et cette œuvre qui est ici, eh bien, vient donc de cet appel que Marguerite Duville a eu, au lieu de s'abîmer dans sa souffrance, de communier à la souffrance des autres. Elle a vu des plus malheureux qu'elle, des plus pauvres qu'elle. Elle a commencé par les recueillir. C'était quelques personnes seulement. C'est un tout petit commencement. Et puis, ça a donné finalement cet ordre qu'on appelle l'ordre des sœurs de la charité, qu'on a calomnié. Ils ont passé par toutes sortes d'épreuves et on les a même accusées de s'émivrer. Et on disait qu'elles étaient grises, hein, vous le savez, peut-être tous ne savent pas. On disait que ces sœurs, elles se réunissaient pour s'émivrer et qu'elles étaient grises. Et un jour, moi, j'étais un peu tourmentée parce que je voyais toujours ces sœurs. Enfin, leur successrice, à ceux qui ont succédé à Marguerite Duville, habillée en brun. Et j'ai demandé une fois, c'était en 1970, je pense à la supérieure ici, pourquoi on les appelait sœurs grises? Vous êtes habillée en brun. Et on vous appelle sœurs grises. Et c'est là que j'ai eu l'explication que c'était une calomnie qu'on disait d'elle, et que par humilité, Marguerite Duville a dit, eh bien, nous nous appellerons sœurs grises. Comme on a appelé chrétiens, c'était le monde qui a appelé les disciples du Christ des chrétiens, ce n'était pas un bourbon, n'est-ce pas? Mais ils ont accepté qu'on les appelle des chrétiens, des disciples du Christ. On dit qu'on est grise, eh bien, qu'on nous appelle sœurs grises, peu importe, il n'y a pas de révolte, même si j'avais des injustices et de la calomnie. Il y a beaucoup de leçons à retirer de cette vie de cette femme, et vous êtes dans une de ces maisons qui a à son origine la vocation d'une femme qui a accepté de porter la croix et qui a entraîné d'autres personnes à sa suite, parce qu'elle a vu chez les pauvres Jésus lui-même. Ça, c'est quelque chose de magnifique et que nous devons retenir. Alors, nous bénissons Dieu pour la mémoire de Marguerite Duville. Nous n'avions pas besoin que Rome la canonise pour savoir qu'elle était une folle. N'est-ce pas? Parce que nous sommes saints en Jésus-Christ. Et elle l'a manifesté. existé. Et si vous jetez un coup d'œil à cette petite brochure, vous verrez ce qu'elle a dit elle-même, quelle a été cette confiance éperdue qu'elle avait dans son Père Céleste, en toutes choses, et puis vous verrez ensuite ce que les hommes ont pu dire d'elle, et en particulier, il y a le témoignage de plusieurs évêques, et ces témoignages, je pourrais aussi les citer. Alors, nous avons donc une communion spirituelle. C'est quelque chose qui m'a toujours impressionné, c'est ma naissance spirituelle. Vous savez que pour moi aussi, c'est un anniversaire. Cette année, j'ai 60 ans. Vous pensez que j'en ai plus? Mais je vous parle de l'âge de la grâce. Il y a l'âge de la nature, oui, alors ça, c'est plus près des 80, mais disons qu'en 1931, je l'ai rencontré, ou mieux, il m'a rencontré, et il m'a saisi. Et je lui appartiens depuis 60 ans. Il est devenu ma vie. Alors, je le bénis de tout mon cœur. C'est ce matin, tout à coup, je me suis dit, tiens, franchement, 80 ans, ça fait 60 ans que tu es au Seigneur. Et ça m'a fait du bien. Et alors, le verset qu'il m'a donné, puisque c'est au jour le jour que nous construisons ensemble cette retraite Mahanaïm, qui veut dire au fond le camp de Dieu, le groupe de Dieu, c'est pas un groupe d'une église particulière, ce sont ceux que Dieu a tant aimés qui se réunissent.